France.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à tous, cette semaine, Univox pose ses micros à Grenoble et vous propose de découvrir les activités d'une institution de recherche et de formation originale et exigeante, la Maison de la Création, qui interroge à la jonction entre théorie et pratiques innovantes les nouvelles dimensions de la création sous toutes ses formes. Pour mieux comprendre ce dont il s'agit, je vous ferai découvrir le projet poétique d'une artiste performeuse que cette structure accompagne, Marianne Villière, mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Gretchen Schiller, responsable scientifique de la Maison de la Création. Bonjour Gretchen.
Oui, bonjour Pierre.
Eh bien, on va commencer cet entretien. Donc, pour présenter la Maison de la Création et pour commencer, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'historique de cette structure que vous dirigez et voilà, quelle était un peu l'ambition à l'origine du projet, de quand ça date en gros, et puis voilà, si vous pouvez nous expliquer tout ça.
Alors déjà, le projet plan de campus pour le bâtiment, donc on va parler plus tard, c'était un plan campus lorsqu'on était Stendhal et Université de Piémont-Dance France. Donc on était Maison de la Création pour Stendhal et Maison de l'Innovation pour UPMF. Et mon prédécesseur, donc Philippe Canton, a porté le projet jusqu'au moment de sa retraite. Et j'étais confiée la tâche en 2014 de continuer ce travail de la Maison de Création au sein de Stendhal. Et on a mis en place des appels à projets en 2014 pour pouvoir être à l'écoute des chercheurs et les projets qu'ils souhaiteraient faire autour des questions de la création. Donc, ça, on est dans notre quatrième année des appels à projets. Mais quand on avait la Maison de la Création Innovation qui devient un projet pas seulement d'Université Stendhal, mais plutôt de UGA, donc la fusion, on a décidé, donc ça date maintenant d'un an et demi, de créer ce qu'on appelle une SFR, Structure Fédérative de Recherche, qui est un projet, un dossier à déposer au ministère dans l'enseignement de recherche. Donc on a décidé de déposer cela pour nous donner une structure scientifique, parce que quand on était au Stendhal, on était attaché à la recherche de Stendhal, et c'était pour
donc
continuer.
Stendhal, c'est l'université de lettres et arts de Grenoble.
Bon, voilà.
Est-ce qu'il faut expliquer, parce qu'en fait cette émission est diffusée un peu partout en France, et donc c'est pour les auditeurs qui sont des autres villes où émettent les radios campus.
Voilà. Ouais. Et donc maintenant on est UGA, Université Grenoble-Alpes, et donc pour pouvoir s'inscrire dans un univers encore plus interdisciplinaire, on a créé une structure fédérale de recherche avec 11 laboratoires et des partenaires et membres associés. Et donc les 11 partenaires sont des laboratoires en SHS au sein de l'université. Donc ça inclut des architectes, des géographes, des muséologues, des historiens. Donc on a ouvert un peu le champ des chercheurs qui travaillaient avec nous à Stendhal. On a ouvert nos portes, donc avec des objectifs de pouvoir travailler d'une façon pluridisciplinaire avec le nouveau projet de UGA.
D'accord, très bien. Et dans Maison de la Création, on l'aura compris, il y a quand même un terme central, c'est création. Et donc, quelles approches est-ce que vous privilégiez de ce terme et comment est-ce que ça engage les travaux de recherche que vous menez dans la structure? Est-ce qu'il y a plusieurs manières peut-être de comprendre ce terme et donc voilà, de problématiser vos recherches à la fois avec vos jeunes chercheurs mais aussi les personnes qui les encadrent? Et on l'a compris, il y a également des artistes qui sont partie prenante à ces projets, donc comment est-ce que tout ça s'articule?
Alors déjà, le mot création est polysémique et en fait, on voulait mettre le point sur des questions des processus de création et les pratiques, à la fois avec des processus réflexifs, de la pratique et de pouvoir ouvrir, pas juste regarder la question de la production de la création, ça veut dire les finalités, mais les processus et les savoir-faire qui sont issues souvent des connaissances qui sont implicites, qui sont tacites, et de trouver des modalités de recherche pour les expliciter. Donc, c'est vraiment de créer un environnement expérimental où on peut travailler d'une façon pluridisciplinaire, d'une façon collaborative, qui n'était pas vraiment commun au sein de SHS à Stendhal. Et aussi d'animer un réseau partenarial avec des partenaires culturels à Grenoble. Et aussi, actuellement, on a des partenaires en France et aussi à l'étranger. Avec cette ambition de développer aussi des nouvelles interfaces, des outils, méthodes, de travailler ensemble. Donc ça, c'était une des choses qu'on a éventuellement, on va éventuellement parler de l'école d'été qu'on a eu la semaine passée.
Oui, j'ai prévu de terminer par là, oui.
Voilà. Et donc, c'est ce désir, si vous voulez dire, de honorer la place de l'expérimentation et la pratique et des pratiques de recherche dans le monde des créations.
Voilà, donc justement, moi j'avais une question peut-être un peu naïve parce que j'ai pris mes distances par rapport au monde de la recherche. J'étais moi dans le domaine des études d'histoire et donc je me demandais peut-être par rapport à la position du chercheur ou de l'apprenti chercheur, qu'est-ce que ça engage d'articuler comme ça la pratique et la théorie, la recherche et la création. Et est-ce qu'il n'y a pas dans cette volonté d'articuler les deux, et vous allez peut-être essayer de nous expliquer comment ça se passe, une façon de faire émerger des nouvelles figures de chercheurs et aussi des nouveaux positionnements pour les artistes qui, comme vous le disiez, peut-être sont plus conscients de leurs gestes et y attachent plus d'attention et en tout cas une réflexivité plus grande.
Alors, peut-être il faut que je dise quelque chose, peut-être vous entendez par mon accent. En fait, moi j'ai été éduquée à l'étranger, donc plutôt dans des contextes anglo-saxons,
oui.
Où la pratique faisait toujours une partie de mon enseignement en tant qu'étudiante. À la fois en licence au Canada, en master aux États-Unis et en thèse en Angleterre. Et donc, ce n'est pas quelque chose que j'essaie d'inventer. En fait, il y a des exemples qui existent, et qui existent aussi en France, où on va dire que surtout dans des pratiques artistiques, pour comprendre des nuances de jouer un instrument musical, il faut savoir le jouer.
Bien sûr, oui. On part de la base, mais c'est intéressant d'y revenir, oui.
Il faut revenir, des fois je pense qu'il faut revenir des choses de la base, et donc, par exemple, quand on est en cours, donc peut-être la partie de la danse, moi je viens de la danse, je viens de la chorégraphie, et donc c'est difficile de parler d'une façon tout à fait abstraite, et ça me nourrit beaucoup. Ma façon de penser, aussi des philosophes comme John Dewey qui était un philosophe de l'expérience pédagogique, en disant que pour comprendre certains éléments il faut pouvoir l'expérimenter, un peu comme font aussi les physiciens. Et en physique, on a des labos d'expérimentation comme on a des labos théoriques, et je pense pas qu'on invente quelque chose, vraiment on est en train juste de dire revenons à écouter par une question scientifique, quelle est la meilleure façon d'aborder la question par des différentes pratiques de recherche qui sont des fois purement théoriques, mais aussi éventuellement expérimentales. Et par exemple, écrire, c'est une pratique.
Oui.
Écrire, on a l'impression de dire que écrire, c'est purement théorique. Mais non, la pratique d'écrire, c'est une pratique réflexive de la pensée. La pensée est en train de se construire pendant qu'on écrit. Et donc, je pense que c'est important de revenir à des choses très, très simples comme cela. Chaque pays, il faut savoir vraiment, je trouve, de définir un peu différemment la place de l'artiste. Avec la recherche. Donc on ne peut pas parler d'une façon générale, parce que si on regarde Canada, c'est très différent sur comment les choses s'organisent en France, avec le ministère de culture où sont attachés les artistes et le ministère d'enseignement de la recherche où sont toucher les chercheurs. Et juste pour donner un exemple, ça fait 3 ans qu'on travaille avec une convention avec l'École supérieure d'art et design. Et on a commencé avec le master, d'une façon très modeste, de dire qu'ils avaient des lacunes en recherche qu'ils voulaient travailler avec nous. Et nous, on avait des lacunes en art plastique. Donc, des étudiants puissent échanger dans ces cours, se retrouver. Et qu'aujourd'hui, il y a des co-directions de thèse entre l'école d'art et UGIA qui sont en train de se mettre en place, où on n'est pas en train de dire qu'un est isolé de l'autre, mais qu'un peut en profiter des richesses qui amènent l'autre pour arriver à résoudre des problèmes ensemble.
Oui, donc vous, en fait, vous montrez que là, vous jouez sur les complémentarités entre vos établissements et sur les potentialités que vous avez chacun, d'une part, d'un côté, sur la recherche, et de l'autre, sur des pratiques artistiques très concrètes qui sont menées à l'ESAD. Et on reviendra en fin d'émission sur votre école doctorale, où là aussi il y avait à la fois cette volonté d'explorer un terrain très précis dans le détail en l'articulant avec des questionnements venus d'horizons théoriques assez divers, et de nourrir ces questionnements aussi par des conférences le soir. Donc on voit effectivement que ça peut partir parfois de choses très simples, l'articulation entre recherche et création et pratique artistique. Donc merci de le rappeler. Et moi, j'avais envie de vous demander, par rapport au projet de recherche et au projet artistique que vous soutenez à la Maison de la Création, comment est-ce que se passe la sélection de ces projets? Comment est-ce que quels sont les critères pour qu'un projet vous paraisse intéressant, et qu'est-ce qui vous donne envie de les soutenir ensuite?
Alors, en 2014, on a commencé les appels à projets avec des critères suivants. À cette époque-là, à Stendhal, il fallait que 2 labos travaillent ensemble, qu'on essaie déjà de voir comment des chercheurs qui ne sont pas nécessairement unis par le labo puissent avoir un trait d'union par un financement d'un projet de la Maison de Création, et aussi avec un partenaire culturel. Après, on a demandé quelle était la question de recherche. En fait, on n'est pas dans un financement des conférences de la purement création et la programmation artistique. Il fallait vraiment exprimer quelles étaient les questions de recherche création, de recherche aussi, on voyait des recherches qui sont issues de la pédagogie, qu'on a aussi ouvert.
En fait, des projets de recherche.
Et c'est des projets de recherche.
Dans lesquels le geste artistique et la réflexion sont liés et sont indissociables.
Alors, des fois, création n'est pas que artistique, parce que ça peut être une création pour certains gens qui sont attachés à des laboratoires. La question de langage n'est pas nécessairement un acte artistique, mais la création des nouveaux dispositifs de recherche action. Je pense au projet avec la Maison de la Poésie qu'on a financé. Mais pour la sélection, je souhaiterais revenir dessus. On met en place un jury, un comité, dans lequel je ne siège pas. Donc, ce n'est pas moi qui décide les projets.
Oui.
Je demande chaque année, il y a des chercheurs de l'université, des différents labos qui siègent le comité avec un partenaire culturel et des fois étrangère, de l'étranger, pour que, en fait, des retours critiques puisse se faire, parce que sinon moi je serais dans un acte de choisir des projets que moi je peux pas penser seul sur ce projet. Il faut l'intelligence collective.
Ouais. Pour qu'il y ait un brassage de la diversité, du renouvellement, du croisement d'idées, etc.
Voilà, voilà. Et donc la seule chose qu'on a changé, par exemple, maintenant c'est plus deux labos, c'est ouvert à UGA et avec nos partenaires associés, donc le projet qui est avec l'école d'archi, qui est avec Cresson, qui étaient les sélectionnés, c'est parce qu'ils sont membres de notre structure fédérative de recherche.
Oui, alors on ne l'a pas dit, mais il y a 11 laboratoires, on ne va peut-être pas tous les donner, mais de toute façon, on mettra les références de votre site internet sur le podcast de l'émission, et qui sera accessible partout sur les Radio Campus. Et donc, moi, je vous propose maintenant, pour illustrer la question des projets de recherche, j'ai pu rencontrer Marianne Villière, qui est donc une artiste performeuse qui montait quelque chose avec le sociologue Anthony Péqueux et qui a donc lancé une performance à la caserne de Beaune. Et je vous propose maintenant d'écouter la manière dont elle explique les enjeux de ce projet. À tout de suite.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Alors ici à Grenoble, sur l'esplanade devant la caserne de Beaune, c'était les premiers pas d'Arlequin. Alors pourquoi Arlequin ? En fait, c'est issu d'un projet artistique et de recherche que je mène ici avec le Cresson, avec Anthony Péqueux, qui est sociologue, et auprès de la Maison de la Création. Et pour vous expliquer peut-être l'articulation du projet qui est mené, c'est une proposition artistique qui naît d'un appel téléphonique avec une fonctionnaire de la municipalité de Grenoble. Bah, concrètement, j'appelle. Et après ça, par un jeu de conversation, j'arrive à faire en sorte, à orienter plus ou moins la personne vers un lieu de son choix. Ici, ça a été cette esplanade. Et par la suite, elle est amenée à imaginer un projet artistique. Et il se trouve qu'à Grenoble, la fonctionnaire a imaginé Arlequin. Enfin, Arlequin. Après, je lui ai dit... Est-ce possible une Arlequin ? Parce que, bah, en fait, c'est moi je sais que je vais l'incarner, donc autant préciser au maximum. Voilà. Les personnes, d'ailleurs, avaient imaginé qu'il fasse beau et que je puisse... Enfin, ils ne savaient pas que c'était moi, mais ils imaginaient chacun Arlequin en relation aux gens, aux éléments, bah, à la mare qui est présente avec les iris jaunes ici, les points d'eau, les arbres, que je raconte des histoires aux enfants, que je joue de la flûte très mal, de manière à gêner, et donc ça a vraiment provoqué la gêne à un certain moment. Il y a eu aussi des moments où je devais a priori danser ou faire des acrobaties, ce qui me vaut un petit mal de dos maintenant. Mais c'était enrichissant surtout sur les surprises. Enfin, je veux dire, ça ouvre à quoi ? Aux surprises et aux complicités inattendues. Enfin,
on a vu qu'il y a eu vraiment une variété de réactions. Et puis souvent quand même, les gens rentraient dans le jeu, si j'ose dire. Je ne sais pas si cette métaphore est appropriée, mais il y avait un côté très ludique aussi et très léger dans ta façon d'envisager les choses et de les mettre en forme. Ce que je veux dire, c'est que l'étrangeté s'est vite dissipée.
Oui. C'est une des strates de ce projet. En fait, bah maintenant, on en est à l'étape de réalisation où cet Arlequin prend vie. Et nous, des relations avec son environnement, avec les personnes qu'elle croise. Avant ça, j'en ai noué avec la fonctionnaire une complicité qu'il n'y a pas lieu d'être. En fait, avec l'administration, normalement, c'est très protocolaire. On n'engage pas la personne avec soi, avec une proposition artistique. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déroulé qui amène à cette intervention et à provoquer d'autres types encore de manière d'être.
C'est comme s'il y avait finalement des réactions en chaîne, avec au départ une petite étincelle que tu as fait jaillir et qui en produit pas mal d'autres.
C'est mon souhait en tout cas. Et comme on l'a vu, il y a une pluralité de réactions. C'est ça aussi qui est déterminant, c'est que Arlequin aussi a plusieurs facettes. Ça tombait bien avec le personnage. Et là, chaque personne interrogée a imaginé des actions, des gestes, des postures spécifiques. Et du coup, j'ai pu explorer avec les personnes sur place, y compris un petit enfant de, je sais pas, 2 ans. Oui. Les enfants nous portent à faire attention. Enfin, pour moi, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que il était dans le moment, il était dans l'instant. Et nous, adultes, parce que là, je pense que beaucoup d'adultes sont plutôt en train d'écouter ce qu'on est en train de dire. On n'est pas vraiment dans le présent. Donc si jamais, même ce moment qu'on partage, où vous entendez ma voix, nous fait être dans le présent, c'est déjà une réussite en soi. C'est-à-dire que c'est des moments où, de manière fulgurante, on partage quelque chose. Désolée, je reviens aussi sur l'instant, mais c'était ça qui était le plus beau pour moi dans cette expérience, c'était de tout d'un coup tu quittes l'animation, même au sens noble, de révéler les âmes qui sont présentes, mais tu es vraiment présent et tu t'éveilles à ce qui t'entoure. Et du coup, tu renverses des postures, tu t'affirmes dans ton corps, dans ton esprit. Et t'es vraiment... je sais que ça peut paraître vraiment mystique, ce que je vais dire en parlant de communion, mais tout d'un coup... t'es relié aux choses l'atmosphère que ça génère est un tableau vivant que les autres peuvent aussi percevoir. Et du coup, même quand t'es pas en interaction avec quelqu'un, ou tu permets aux autres d'observer, d'être témoin d'une attitude, d'une posture, d'une existence particulière. Mais le personnage d'Arlequin, justement, avec toutes ses facettes, pouvait résonner avec beaucoup d'attitude. Et ouais. C'est ça qui m'intéressait.
C'est d'accueillir aussi la pluralité des réactions,
oui,
à travers ce personnage. Donc
oui.
C'était finalement un bon choix de la part de cette fonctionnaire.
C'est inopiné. Et voilà, ouais, ça a été spontané chez elle. Elle a tout de suite dit Arlequin. Et elle l'a imaginé avec un maquillage blanc, qui est normalement Arlequin, en fait, et a le visage peint de suie noire. Et il a aussi un chapeau, j'ai dû le retirer assez vite parce qu'il y a du vent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les gens m'ont dit qu'il est facétieux, il est un peu, je dirais, espiègle comme ça, il aime la dérision, il est pauvre. Donc c'est pour ça qu'en fait il rapièce des éléments pour s'habiller. Et j'aime beaucoup, moi, la figure du bâtard. C'est bâtard à l'origine, c'est celui qui est adopté par la cité. Sans mêler, en fait, il n'a pas de famille. Et pour moi, ça s'associe au personnage de l'artiste qui lui non plus n'a pas vraiment de famille. Il est plutôt du commun. Et il a à voir avec le commun et avec la cité, pour moi, qui est l'espace du commun.
Et donc, En retour de cette adoption, quelque part, l'artiste rend quelque chose à la cité, mais pas en termes marchands, mais en termes de...
De décalage, de transformation.
De gestes, d'attitudes, de propositions esthétiques et...
Divergentes,
voilà.
Marginales,
décalées. Pour libérer l'imaginaire, justement.
Oui. Pour lui offrir une place d'accueil, en fait. Et je crois que ce personnage était là pour, dans la bienveillance, pour écouter les imaginaires, les réceptions, pour faire vivre, comme tu as dit, la petite étincelle qui peut exister dans l'échange d'un regard.
J'ai cru comprendre que tu te définissais comme compositrice de situation. Donc si tu peux juste, pour conclure, parce qu'on va pas non plus trop te monopoliser... Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu entends par là ?
Je dirais que c'est une énergie, un dispositif qui aménage le chaos. Alors ça peut être et paraître un peu abstrait, mais c'est des manières... Quand je parle de composition de situation, c'est finalement... faire du mieux que quelqu'un peut, donc c'est moi que je peux, pour provoquer des pratiques de liberté, des zones d'expression. Pratiques de liberté, c'est un terme de Foucault.
Des techniques de soi aussi, des choses comme ça, je sais pas si...
L'idée, c'est d'être à l'écoute, oui, des subjectivités, et d'admettre qu'elles ont leur espace, leur temps aussi, et d'être non seulement de l'admettre, mais d'être disposé à faire écho à
leur permettre d'advenir,
ces intentions.
En fait. Alors
oui, ouais,
voilà,
permettre d'advenir.
Et un dernier mot pour conclure, Marianne.
En fait, toutes les fragilités même qui encadrent, même au niveau de la technique, les projets, etc. Moi, je suis... Comment dire, c'est mon intérêt fondamental dans tout ce qui se déroule, c'est ça. C'est que les choses, elles n'ont pas une ligne. Elles sont des points d'éclat. Et la diversité des manières de vivre ces moments-là font la richesse du projet. Il y a rien qui est juste, il y a rien qui est vrai. Il y a tout qui peut se passer et vive les maladresses, vive nos fragilités, vive qu'elles vivent. C'est ça qui nous fait vivre et c'est ça qui fait que ce moment il est précieux et qui nous rend heureux d'être en vie, quoi.
Bah, merci pour cet accueil de la vulnérabilité, de la faiblesse, de la fragilité, de la maladresse. C'est quelque chose qui me touche. Tout le monde ne le saura pas pourquoi, mais en tout cas, je te dis bonne chance pour la suite. Et ça m'a fait très plaisir d'avoir l'occasion de te rencontrer et de soutenir.
Pareil.
Et de soutenir ton travail et d'en témoigner. Donc,
merci.
À bientôt.
Oui, à bientôt.
Et voilà, donc vous avez pu être témoin d'un échange fort sympathique à la caserne de Beaune avec Marianne Villiers autour donc du projet qu'elle portait pour la Maison de la Création. Donc pour terminer, est-ce qu'on peut revenir, Gretchen, puisqu'on est de retour en plateau avec vous, sur un grand événement qui s'est passé pour vous la semaine dernière, l'école de printemps Arts in the Alps. Je vous laisse en parler.
Oui, merci beaucoup Pierre. C'était juste pour dire que, terminé, qu'on a fait un grand événement, c'est-à-dire qu'on a eu 50 candidats de 14 pays pour une semaine intensive de travailler la recherche et partager nos pratiques de recherche sur la question de l'Institut. Donc c'est le nom du projet, c'était Gestures of Here and There, les gestes d'ici et là-bas, au Bouchayer Vieillet, qui est un lieu qui a plusieurs couches d'histoire, donc l'histoire industrielle, l'histoire de la friche et l'histoire d'éco-quartier, et qu'on semble avoir une semaine très très intense et les retours sont très positifs. Nous, on sait qu'il faut toujours changer des choses qu'on va faire dans l'avenir, mais en tout cas c'était une belle semaine à la fois corporelle de pratique et des partages de pratiques de recherche, et on est très contents et merci beaucoup.
Bah, merci pour ce retour Gretchen et à bientôt sur notre antenne, j'espère. Moi, il me reste à vous remercier d'avoir été présente à cette interview. Et puis, à remercier aussi Elisa Thomas, qui était à la technique avec moi pour cette émission. Et puis, Johan Schmidt pour son aide au montage de l'interview avec Marianne Villers. À bientôt, c'était une émission présentée par Pierre Derumeau. Et pour Radio Campus Grenoble, à bientôt. Et je vous renvoie sur le réseau Radio Campus France. Salut!
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.